Trop.
Oui. Oui, Isco, c'est non. Sur Madiane. C'est sur voilà. Madiane.
Donc, Parchat Itro. La parashah s'appelle Itro. Vu qu'elle contient Matan Torah, on se serait plutôt attendu à ce qu'elle s'appelle Moshe ou quelque chose comme ça. Mais bon, on a appliqué la règle standard qui est qu'on donne à la parashah le comme nom, le premier mot significatif au début du texte. Quoi. Comment ça va? Ishma Itro. Donc, on a donné le nom de Itro, peut-être aussi pour d'autres raisons. Voilà. Le Ramban dit, alors, bon, je vais juste dire en deux mots, mais vous avez les textes devant vous. On parle au début de cette paracha de Itro, Vaishma Itro. Itro, il a entendu quelque chose. Il a entendu tout ce qu'Hachem avait fait aux Bnei Israël, pour les Bnei Israël, pour Moshe et le peuple de Moshe, etc. Essentiellement, ce qui est dit dans le texte, il a entendu Yetziat Mitzrayim. Il a entendu la sortie d'Égypte. On va voir que Rashi et d'autres vont poser la question de savoir qu'est-ce qu'il a entendu vraiment. Et on ne va pas se contenter de sortie d'Égypte. Rashi va dire qu'il a entendu plus de choses que ça. Il a aussi entendu Kriyat Yam Souf. Et il a aussi entendu la guerre contre Amalek. Le Ramban, il dit, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il y a une machloquette en vérité pour savoir quand Itro est-il venu chez Moshe. Alors, si on s'en tient au texte que nous avons, dans le texte de la Torah que nous avons devant nous, alors le texte porte la venue d'Itro et plus tard, Matan Torah. Donc, si on s'en tient au texte, Itro était là à Matan Torah. Mais il y a néanmoins des opinions qui pensent que Itro est arrivé après Matan Torah. Si on dit que Itro est arrivé avant Matan Torah, alors d'une certaine manière, tout va bien, parce que le texte reflète la chronologie exacte. D'abord, la venue d'Itro, et Matan Torah ensuite, quand Itro est déjà là. Si maintenant on dit que Itro est arrivé après Matan Torah, alors il faut se demander pourquoi la Torah a changé dans sa présentation. Elle ne nous présente pas les choses dans l'ordre chronologique. Il y a une raison. Donc, le problème, c'est si je considère que Itro est arrivé après Matan Torah. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre, ou si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut comprendre du fait que la Torah nous présente la venue d'Itro avant Matan Torah? Ça veut dire que la Torah n'a pas ici le souci de nous donner une chronologie pour savoir quand vraiment il est arrivé. Mais que la Torah veut nous dire que, d'une certaine manière, tu ne peux comprendre Matan Torah que si tu comprends qu'avant Matan Torah, il y a eu la venue de Itro. Et comme texte, donc en tant que texte, le texte de la Torah ne s'entend que si on a préalablement entendu le texte parlant de la venue de Itro. Par conséquent, cette venue d'Itro, elle vient nous dire quelque chose par rapport à Matan Torah. Elle vient nous faire une espèce d'introduction à Matan Torah. Une espèce de pré-requisite pour entendre la Torah. Alors bien sûr, c'est une leçon pour entendre la Torah, pas seulement à Matan Torah, mais de façon générale pour entendre la Torah. Pour comprendre quelque chose à la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette paracha de Yitro, indépendamment de l'aspect historique des choses? Puisque ça ne nous intéresse pas, puisque ce n'est pas mis dans l'ordre chronologique, d'après ceux qui pensent qu'il est venu après Matan Torah. Alors, ce qui est très intéressant, c'est peut-être regarder un tout petit peu la construction du début du texte. Le texte dit la chose suivante. Vaishma Yitro. Yitro a entendu. Yitro, il est Cohen Midian, il est un prince en Midian. Il est Choten Moshe, il est le beau-père de Moshe. Il a entendu et Kol Asher Asa Elohim le Moshe, tout ce qu'Elohim a fait pour Moshe et pour Israël, son peuple. Ici, par exemple, on voit Israël présenté comme étant le peuple de Moshe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qui hotsi Hachem et Israël mi Mitzrayim. Hachem a fait sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Vous voyez, dans le texte, il y a un changement de nom, là. D'accord? Il a entendu tout ce que Elohim a fait à Moshe. Et qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu que Hachem a fait sortir les Bnei Israël de Mitzrayim. Pourquoi le texte du début dit et kol asher asa Elohim le Moshe ou l'Israël? Pourquoi c'est pas marqué et kol asher asa Hashem le Moshe l'Israël? Un mot qui aussi Hashem d'Israël mi Mitzrayim. C'est quoi le changement ici de nom divin en fait? Pour l'instant, je ne sais pas. Comme si c'était deux choses. Il a entendu « Kol Asher Asa Elohim le Moshe » qui « Otsi Hashem et Israël mi Mitzrayim ». La phrase, elle est un peu étrange. Bon, mais c'est pas là-dessus que je voulais attirer votre attention. C'est que immédiatement après ce verset qui dit voilà, Yitro a entendu, c'est marqué Vaikach Yitro Choten Moshe et Tzipora Eshet Moshe Achar Shiluchea et Shnei Banea Asher Shema Echad Gershon Ki Amar Gereiti Beres Mitznochia et Shema Echad Eliezer Ki Eloke Avi Be'ezri V'yatsileni Mi'cherev Paro. C'est-à-dire que la Shmiya de Yitro, elle est suivie immédiatement d'une action. Il a entendu, il se lève et il part. Il va voir ce qui se passe. Il va là-bas. Il va là où sont les Bnei Israël. Immédiatement. Il a entendu, ça se traduit en action tout de suite. Donc Yitro, c'est quelqu'un qui, quand il entend quelque chose, ben, il en tire des conséquences. C'est pas quelqu'un qui lit dans le journal, effectivement, il dit « Ah, extraordinaire, magnifique, etc. » Et puis bon, on tourne la page, on lit ensuite la page suivante du journal. Bon, c'est quelqu'un, il a entendu quelque chose de très important, Il se lève, et il prend, et puis il s'en va. Le texte lui-même, il va très très vite, puisque on nous dit, il a entendu, il s'est levé, il est parti, et il est arrivé. Tout de suite, voilà, le verset d'après, « Vayavo Yitro choten Moshe ubana v'ishto el Moshe ». Donc ça, on n'a pas, la Torah ne s'est pas étendue longuement sur le voyage, etc. Donc c'est important. Si c'est ça la leçon, justement, ça veut dire que pour recevoir la Torah, il faut savoir écouter. Ça, c'est l'introduction à la Torah, à la Kabbalat HaTorah. Ça ne sert à rien qu'on vous donne la Torah si vous ne savez pas écouter, nous dit la Torah. C'est un préalable de savoir écouter. Dans les Bnei Israël, ils ont reçu la Torah sans avoir à écouter. Parce qu'ils ont vécu les choses. C'est pas sûr que c'est pas plus efficace d'écouter de la bonne façon que de vivre les choses, parce que quand on vit les choses, on a peut-être le nez un peu dans le guidon, comme on dit, et c'est difficile à voir. Les événements sont tellement extraordinaires qu'on n'a peut-être pas le temps de réfléchir. Tandis que quand on dit savoir écouter, ça veut dire réfléchir à ce qu'on entend. Et accepter d'écouter, si vous voulez. Quand vous écoutez quelque chose, bon, que ce soit des livres de Torah, que ce soit la Havdil, que ce soit de la musique, ou que ce soit une conférence, etc., il y a de nombreuses façons d'écouter. Il y a des écoutes qui sont telles que la chose entre en vous, ce que vous entendez. Vous êtes modifié par ce que vous entendez, que ce soit de la musique, que ce soit des livres oraux. Donc là, on voit très bien que ça le bouleverse au point de quitter. C'est un prince qui quitte son confort, qui quitte une situation probablement très agréable et pour aller dans le désert. Il va rejoindre des Bnei Israël qui sont dans le désert. Donc, je crois que la première introduction, enfin, l'introduction peut-être fondamentale, peut-être c'est ça l'essentiel, c'est de savoir écouter. On a déjà dit souvent qu'une Torah qui ne nous bouleverse pas, ce n'est pas vraiment une Torah. Mais ça veut dire que pour que ce soit de la Torah, il faut que le récepteur veuille l'entendre comme de la Torah. Je me mets en position de recevoir. De même que quand vous voulez écouter quelque chose, je prends toujours l'exemple de la musique, mais vous vous mettez, pour écouter de la musique, vous vous installez pour écouter de la musique. On n'écoute pas de la musique comme ça sur un pied en faisant autre chose, ça ne s'appelle pas vraiment écouter de la musique. Et donc là, c'est toujours très important que quand il y a un message qui est transmis, il y a un émetteur, il y a le message, et puis il y a le récepteur. Mais s'il n'y a pas de vrai récepteur, il n'y a pas de message. Il y a des endroits où on présente le forme de transmission ou de comme je sème à tout vent, quoi, quelque part. Ça veut dire on sème. Et puis ça arrive ou ça n'arrive pas, mais bon, on essaye de. Enfin, il y a un geste pour que ça arrive bien. Il faut avoir préparé la terre. Si on n'a pas préparé la terre, on ne peut pas semer. Alors, c'est peut-être, peut-être un peu trivial de dire que pour pouvoir recevoir la Torah, il faut être capable d'écouter. Mais on voit que qu'est-ce qui s'appelle écouter ? Écouter, ce n'est pas simplement prendre du plaisir à entendre les choses. C'est en faire quelque chose. En tout cas, pour la Torah, c'est en faire quelque chose. Il faut bouger. Il a changé complètement sa vie, quoi. Il trouve. Ensuite, donc Rashi nous dit, Mashmoa Shama Uva, qu'est-ce qui l'a fait bouger? Qu'est-ce qu'il a entendu qui a fait qu'il s'est mis en marche? Alors Rashi dit, Kriyat Yamsouf, Milchemet Amalek, que deux choses. Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Donc la sortie d'Égypte, c'est clair, ça c'est écrit dans le texte. Il a entendu aussi Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. Donc il a entendu que Hachem a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte, ensuite qu'il a détruit l'Égypte, Kriyat Yamsouf, l'armée égyptienne, et troisièmement, que il a détruit, enfin pas complètement détruit, mais il a permis au Bnei Israël de vaincre l'ennemi extérieur, Amalek. L'ennemi, il n'a pas complètement éradiqué. C'est intéressant, parce que pourquoi il ne l'a pas éradiqué? Puisqu'il y a une mitzvah d'éradiquer Amalek. Alors les Mefarshim, en général, ils disent qu'effectivement, Yoshua, quand il a fait la guerre contre Amalek, évidemment, grâce à l'aide d'Hachem, grâce à l'histoire avec les mains de Moshe et tout, il aurait pu continuer et éradiquer complètement Amalek. Mais ils expliquent que le moment, Israël n'était pas prêt. L'éradication d'Amalek, c'est la fin de l'histoire, hein. Parce qu'Amalek, c'est la pointe avancée du mal, la pointe avancée des sages. S'il doit être détruit, s'il avait été détruit à ce moment-là, on était quasiment au temps messianique, mais Israël n'était pas prêt. Et que la chair à ça, il a aussi entendu tout ce qu'Hachem a fait à Moshe et Israël. Là-dessus, Rashi dit que la chair à ça, que la chair à ça, l'ahem, miridat aman, babéer, ou béamalek. Il leur a fait trois choses. Il leur a donné la manne, il a fait descendre la manne du ciel, le ber de Myriam, le puits de Myriam, assurer l'eau. Et puis, en fait, le problème d'Amalek, d'une certaine manière, on peut dire que la protection, c'est une protection par les nuées, etc. Il y a une protection, une espèce de bouclier, qui a protégé le clan d'Israël. ce qui a protégé le clan Israël, c'est, comme on dit dans la Mishnah de Rosh Hashanah, Yadav shel Moshe osot milchama, est-ce que c'est les mains de Moshe qui font la guerre, puisqu'on dit que quand Moshe élevait les mains, les Bnei Israël ayu meshabdim et libam laviyam shebashamayim et gagnaient. Et ici, maintenant, dans cette situation-là, ils vont, les Bnei Israël gagnent parce qu'ils sont meshabdim libam. C'est-à-dire, en fait, ils se considèrent vraiment comme les esclaves d'Hachem, les grands serviteurs d'Hachem. Donc, ils ne font pas la guerre en tant que nous sommes attaqués. Et quelque part, si on est les serviteurs d'Hachem et qu'on est attaqué comme tel, ça veut dire que c'est une guerre. C'est la guerre d'Hachem, en fait. Bon. On ne va pas reparler d'Amalek. Donc, on ne peut pas dire, mais... Donc ça, c'est ce que Yitro est en train de dire, de ce qu'il avait compris, ce qu'il a entendu. Alors, il a pris Tzipora Eshet Moshe, Achar Shiluchéa. Il a pris Tzipora, la femme de Moshe, après qu'elle ait été renvoyée. Alors vous vous souvenez de quoi parle-t-on ici, qu'est-ce que c'est que ce renvoi? Quand Moshe Rabbeinu a eu l'ordre d'Hachem d'aller délivrer les Bnei Israël en Égypte, il a pris Tzipora et c'est son fils, et il y a un bébé encore avec, en plus, et ils sont partis. Et quand ils sont arrivés, Aaron a dit à Moshe, mais ça ne va pas. Nous, on se désole d'avoir des femmes et des enfants ici dans cet enfer, et toi, tu amènes femmes et enfants dans l'enfer en question. À quoi tu penses? Alors, Moshe Rabbeinu a renvoyé, Tzipora, les enfants, chez leur père, chez Yitro. Et ça s'appelle Shiluchéa. Et là, parce que Rami m'explique que Moshe Rabbeinu a dit à Tzipora, écoute, si tu veux, bon, c'est pas une vie que je te propose, donc si tu veux, tu peux te considérer comme divorcé, si tu veux. Tu retournes chez ton père, si tu veux te marier, tu te maries. Mais elle s'est considérée comme la femme, elle a continué de se considérer comme la femme de Moshe Rabbeinu. Elle n'a pas utilisé le fait qu'il lui avait dit qu'elle pouvait rentrer chez son père comme étant une façon de lui dire si tu veux, tu peux bénéficier, c'est comme un divorce. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est, vous remarquez, que le texte y porte Vechne Baneha, ses deux fils à elle. Alors ici, qu'on dise ici, Echnebanea à elle, bon, quand elle arrive, on comprend encore, mais plus bas aussi, on aura de nouveau la mention, Echnebanea. Et ça, c'est Yitro qui va lui dire, il va dire à Moshe, moi j'arrive vers toi, Baelecha, Ishtecha, ta femme, Echnebanea de nouveau, Ima. Et il aurait dû le dire, « Echne banecha ». On dit « banecha ». Pour l'instant, c'est elle qui les a complètement élevés. « Echne banecha ». Alors, ils sont arrivés chez Moshe. Et le pasouk de Chet dit que va y saper Moshe, le Chotno. Moshe Rabbeinu a raconté à son beau-père et kol asher asa Hashem le farol Mitzrayim, על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. Moshe Rabbeinu lui a raconté tout ce qu'Hachem a fait à Paro à l'Égypte au sujet d'Israël. C'est intéressant parce que Moshe, lui, quand il raconte, il utilise le tétragramme. Il n'utilise pas Elohim pour raconter. C'est comme si, d'une certaine manière, le récit qu'on en a fait à Yitro. C'est qu'il a un récit qui parle que la divinité d'Ebné Israël s'est occupée d'Ebné Israël. Donc, elle a frappé l'Égypte, etc. Et c'est seulement la sortie d'Égypte, elle est attribuée à Hachem, au tétragramme, mais pas, ça c'est Elohim. Mais Moshe Rabbeinu, lui, sait la totalité des choses, en fait. Donc, lui, pour lui, c'est Hachem partout, quoi. Pas Elohim. Et la question que tout le monde pose, c'est qu'est-ce que Moshe a raconté à Yitro? Yitro, il savait tout, c'est ça qui l'a fait venir. Pourquoi Moshe Rabbeinu lui raconte la même chose? Ça veut dire quoi qu'il le raconte? Alors, ce qu'il a fait, c'est que Moshe Rabbeinu lui raconte les choses de l'intérieur. Ce qu'on savait, Yitro, c'est ce qu'on lui a raconté, les choses qui ont été racontées par des gens qui en savaient, ce qu'on en savait quand on était un spectateur extérieur. Mais Moshe Rabbeinu lui a dit ce qu'il en était vraiment. Et là, quand il lui a raconté les choses, avec tout le détail, alors le pasouk dit « Vaichad Yitro al kol hatova asher asa Hashem l'Israël asher yitzilo miyad Mitzrayim. » Yitro s'est réjoui, énormément réjoui de tout le bien qu'Hachem a fait au Bnei Israël, Asher Yitzilo Miyad Mitzrayim, qu'il a sauvé les Bnei Israël de l'Égypte. Mais là, vous entendez bien que Vayichad, pour à la place du mot Simcha, Vayichad c'est un mot araméen. Mais il a une sonorité, Vayichad, on entend le Chad dedans. Chad, ça veut dire pointu. Le Or HaChaim dit que ça veut seulement dire que Yitro s'est énormément réjoui. Il était heureux. C'est une joie tellement forte qu'elle a provoqué une réaction physiologique, comme ils disent, sur Yitro. Parce que Vayichad, c'est-à-dire il y a eu toutes sortes de petits ridoudim, c'est-à-dire des petites piques, c'est-à-dire il a attrapé la chair de foule, la chair de poule, comme on dit en français. L'Or HaChaim, il dit, la chair de poule, c'est... Il l'a attrapé, c'est comme quand quelqu'un il pleure de joie ou qu'il tombe en syncope de joie, etc. Mais Rashi, lui, il dit autrement. Enfin, Rashi, il explique autrement. Rashi, il dit que finalement, Yitro, avec tout ça, c'est un peu. Il est très égyptien. Il était un des trois conseillers de Paro. Alors, est-ce qu'il est originaire d'Égypte ou pas? J'en sais rien. Parce que l'Égypte étant un empire, on peut très bien imaginer que les trois conseillers, Bilam, Iov et justement et lui-même, Yitro, ne sont pas obligatoirement des Égyptiens. Peut-être c'est des gens qui ont été naturalisés égyptiens, si vous voulez, parce qu'on avait besoin de leur savoir, etc. Un peu comme après la guerre, quand les Russes et les Américains, ils ont naturalisé des savants nazis. Les Américains, ils ont pris von Braun pour fabriquer des fusées. Beaucoup de scientifiques qui ont été prisonniers, plus ou moins prisonniers en Union soviétique et puis et d'autres en Amérique, parce qu'on voulait les faire travailler, savoir. On savait qu'ils étaient des gens qui avaient des savoirs, des connaissances, et donc on les a sortis de là et on les a naturalisés, le Kreischer. Donc on ne sait pas s'il était vraiment né égyptien, mais en tout cas, il était très égyptien dans ses conceptions. Je vous ai déjà dit que mon cher Rabbeinu, quand il a quitté Paro, c'est-à-dire quand il a quitté l'Égypte, contraint, forcé, à cause de la dénonciation de Datan et Abiram, qui l'ont dénoncé, qui ont dit qu'il avait tué un Égyptien, et donc Paro voulait tuer Moshe. Il faut bien avoir présent à l'esprit que le Moshe qui est sorti à la rencontre de ses frères, c'est un prince égyptien qui était quasiment le prince héritier. Peut-être tout à fait le prince héritier. Donc quand il sort et qu'il tue l'Égyptien, il a tout perdu, quoi. Il a perdu toute cette position, toute cette richesse, cette ampleur, si vous voulez, qu'il y avait au palais de Paro pour Moshe. Tout ça, il l'a sacrifié, quoi. Et quand il est parti, dans le texte, on a l'impression qu'il est sorti d'Égypte, quoi. Il est parti d'Égypte et il est arrivé et ensuite, il est arrivé immédiatement chez Yitro. Mais ce n'est pas le cas. Tout le monde sait que Moshe Rabbeinu, si c'est comme ça, il a un énorme trou dans son CV. Un 60 ans de trou au moins dans son CV. Alors on dit qu'il était, par exemple, Melech. Il était roi à Kouch. Mais quand il est arrivé chez Yitro, après, il a dû fuir le Kouch aussi. Quand il est arrivé chez Yitro et qu'il a raconté à Yitro toute son histoire, quand Yitro a entendu qu'il avait tué un Égyptien, il a pris Moshe, il l'a jeté en prison. Il l'a jeté dans la prison, c'était un trou. Hein. Oui, Moshe, il était a priori, c'était pour y crever, hein. C'était pas pour y faire des vieux os. Mais il a été sauvé par Tsipora. Tsipora, pendant 10 ans, elle a nourri en cachette Moshe. Et au bout d'un certain moment, il est sorti de sa cachette. Et puis bon, je ne sais pas comment ils se sont expliqués, mais bref, finalement, il a épousé Tsipora. Et donc Tsipora lui a sauvé la vie à Moshe Rabbeinu, au moins 2 fois. C'est-à-dire là, quand il était en prison, et puis ensuite dans l'histoire de la Mila. En chemin, cette Mila qu'il n'avait pas faite et qui allait se retourner contre lui. C'est Tsipora qui lui a sauvé la vie là, une deuxième fois. Donc, Yitro, il est très égyptien. Et quand il a entendu ce qui est arrivé aux Égyptiens, il a eu la chair de poule. Alors, ça l'a fait souffrir en réalité. Il a eu une espèce de malaise. C'est-à-dire qu'en fait, il avait 2 sentiments presque opposés. Un sentiment de joie et de bonheur pour ce qui était arrivé à Israël, et en même temps, vraiment une infinie tristesse pour ce qui était arrivé aux Égyptiens. Et juste pour qu'on comprenne qui était Yitro. Donc, il lui a tout raconté, avec les conséquences. qu'on le dise comme le Rachaim aussi, c'est possible de dire que c'était par joie, que du coup, c'est tellement profond, mais c'est quelqu'un qui, quand il entend certaines choses, ce Yitro, il a aussi probablement peut-être une sensibilité particulière qui fait qu'il entend ces choses-là et qu'il en tire des conséquences, et tout son corps participe. Et il dit, Ata yadati ki gadol Hashem mikol haElohim ki vadavar asher zadu alehem. Yitro, c'est quelqu'un qui a eu une recherche, il a tout essayé. Il dit, mais maintenant je sais, probablement après que Moshe Rabbeinu lui ait donné le récit des choses telles qu'elles se sont passées en réalité, telles que Moshe les avait vécues. Alors il dit, je sais que Hachem est plus grand que toutes les divinités. Pourquoi ? Qui va d'avoir Hachem Zadou Alem. Et Rashi explique que, je vais vous expliquer comme ça, en réalité, les divinités que Yitro connaît, enfin les divinités idolâtres, enfin qui font l'objet d'une idolâtrie, sont des divinités qui ont chacune sa spécificité, c'est-à-dire elles sont capables de sanctionner, mais elles sanctionnent tout le monde de la même manière, dès lors que c'est dans leur domaine. Elles ont une réaction à une transgression de quelque chose qui les touche, qui est standard, la même pour tout le monde. Et ce que Moshe a donné à comprendre à Yitro, c'est que Hachem, c'est complètement différent, parce qu'Hachem, il a puni les Égyptiens avec ce qu'ils voulaient utiliser, eux, les Égyptiens, pour détruire les Bnei Israël, pour tuer les enfants, c'est-à-dire l'eau. On voulait les tuer par l'eau, ont jeté dans l'eau, ils ont tué. Alors Hachem a tué les Égyptiens aussi de cette manière-là. Ça s'appelle Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Donc ça veut dire qu'il y a une subtilité, si on peut parler comme ça, chez Hachem, qui est qu'il sanctionne, il récompense aussi, mais il sanctionne exactement chacun en fonction de la faute qu'il a faite, par rapport à ce qu'il est lui. Donc, je ne sais pas, il y a une sanction la même pour tout le monde, dans telle et telle transgression, tout le monde est la même. Non, ça va tenir, c'est Mida Keneged Mida, il fallait regarder exactement quelles étaient les motivations, etc., de la personne. Et avec ça, on va savoir comment Hachem va envoyer une sanction qui va être adéquate, qui va être la copie de ce avec quoi ils ont fauté. Donc ça, c'est une supériorité. C'est ça, dit Yitro. Yitro dit, maintenant je comprends, je sais qu'il est supérieur à toutes les divinités. Parce qu'aucune divinité ne fait ça. Ce principe de Mida Keneged Mida. Donc ça aussi, ça fait partie de la préparation à la Kabbalah Torah, de savoir qu'on entre dans un monde de Mida Keneged Mida. Ça veut dire que les hommes vont être extrêmement responsables. C'est pas simplement tu fais pas bien, tu seras puni. Non, tu fais pas bien, tu seras puni avec. Pourquoi ? Parce que l'impact du mal que tu as fait est un impact bien précis. Et c'est ça qu'il s'agit de corriger. Vaikach Yitro Chotel Moshe. Bon, il y a toujours cette remarque, on n'arrête pas de répéter qu'il est le beau-père de Moshe. Finalement, c'est un peu étonnant parce que ça fait un moment qu'on le sait. C'est-à-dire qu'il est tout le temps perçu comme le beau-père de Moshe. Et il se perçoit aussi comme beau-père. C'est comme ça qu'il s'est annoncé. Alors il a pris Ola Uzvachim Le'elokim. Donc voilà, il a apporté les korbanot. Donc comme il y avait les olot, c'est entièrement consumé, mais il a aussi apporté des zvachim, c'est-à-dire des shlamim, d'autres korbanot qui sont mangés. La viande est mangée. Et donc il y a eu un festin. Et à ce repas sont venus Aaron et Chol Ziknei Israël. Ils sont venus manger l'echolechem improten Moshe l'ifnei ha'elokim. Donc ils sont venus manger avec lui. Aaron de Kol Ziknei Israël. Question, où était Moshe? Il n'est pas mentionné là. Réponse, c'est Moshe qui servait. Leçon, effectivement, ça fait partie de la Hakhnasat Orchim version Torah, que le maître de maison honore les convives en leur servant, je ne sais pas, le vin ou la liqueur, l'alcool, lui-même. Fait partie des Derech Eretz. Et du coup, on peut penser à la Gemara dans Kiddushin. Il y a une Gemara dans Kiddushin qui dit, peut-être déjà oublié, c'est Lamed Bet, ça fait longtemps. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Tzadok. Ces trois-là, trois Tanaïm, Shayu Mesubin, ils étaient Mesubin, d'accord, ça veut dire qu'ils étaient accoudés, donc il y avait des lits d'apparat, visiblement. Le Bet Amishté, au festin de Beno Shel Rabban Gamliel. Au festin de mariage du fils de Rabban Gamliel. Veya Rabban Gamliel omed umashke alehem. Et voilà, c'est les travaux pratiques de ce qu'on vient de voir. Rabban Gamliel, qui était donc le grand maître, c'est lui qui est en train de servir les hôtes. Enfin, il les convive, quoi. Et il a proposé un verre à Rabbi Eliezer qu'il n'a pas accepté. Il en a proposé un autre à Rabbi Yoshua qu'il a accepté. Alors Rabbi Eliezer, il a dit à Rabbi Yoshua, il lui a dit, mais Yoshua, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Nous, on est assis, Rabbi Gamliel, il est debout et c'est lui qui nous sert. Et toi, tu te laisses servir. Donc lui, il ne s'est pas laissé servir, il ne voulait pas, il pensait que c'était un manque de kavod. Alors Rabbi Yoshua lui a dit, mais il n'y a plus grand que Rabbi Eliezer qui était debout pour servir. C'est Avraham Avinu, quand il reçoit les Arabes, là, c'est marqué « Ouamed Alehem ». C'est lui qui était debout, il les servait. Et tu ne peux pas dire c'est parce qu'il savait que c'était les anges, parce qu'il ne le savait pas à ce moment-là. Alors Rav Tzadok a dit, il est intervenu lui, et il a dit, mais jusqu'à quand est-ce que vous allez avoir vos petites querelles là, est-ce que c'est bien que Rabban Gamliel nous serve, etc. ou pas? Et vous amenez Abraham, à Kadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui qui nous sert, c'est lui qui fait souffler le vent, il fait monter les nuages, il fait descendre la pluie, etc., il fait pousser les choses. Il est tout le temps en train de nous servir. Et ça ne vous dérange pas. C'est bien plus grand que Rabban Gamliel, qu'Avraham Avinu, mais aussi que Rabbi Gamliel. C'est un chesed. C'est un certain degré très élevé de chesed. Comme toujours sur le, d'après Rav Tzadok, sur le modèle d'Hachem. Et ensuite, il y a encore un énorme. Il y a une première question sur ce verset, c'est qu'il a apporté des korbanot les Elohim. Bon, on n'apporte jamais de korbanot les Elohim. Les korbanot, c'est toujours à Hachem. Ça n'existe pas, korban les Elohim ou korban à un autre nom divin que. Bon, je ne sais pas très bien comment il faut l'entendre. Ça, c'est une question qui va pour l'instant rester sans réponse. Mais ensuite, il y a quelque chose de très important. C'est qu'on nous dit qu'ils sont venus manger, Aaron, les Zkenim, ils sont venus manger à la table d'Itro, ils ont mangé l'Ifne à Elohim, servi par Moshe Rabbeinu, manger l'Ifne à Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont mangé devant Elohim? Comment on va traduire ça, l'Ifne à Elohim? Rashi dit, Mikan, de là on voit. C'est-à-dire que si je prends le verset tel qu'il est, pas plus que ça. Dans ce verset, tous les éléments qui sont donnés peuvent servir. Me souviens bas, qui est l'unené misibashrina. Qui dit justement, on parle à la table. Une table à laquelle se sont aussi assis les Talmidei Chachamim. C'est-à-dire, on va manger, nourrir le corps, etc. Et à cette table, il y aura, non pas un vort, un petit mot de Torah, etc. Les Talmidei Chachamim qui vont discuter, ils vont parler. Et ça, ça s'appelle Néné Miziv Ashrina. On sait que quand des Talmidim étudient, l'Ashrina est entre les deux, c'est-à-dire l'Ashrina, elle est dans ces paroles qui vont et qui viennent de l'un à l'autre. C'est ça l'éclat de l'Ashrina. Ça, c'est un chidouche. Bon, c'est. L'ennemisi vashkina, c'est pas un truc abstrait. Rashi dit, c'est très concret. Alors, les Talmidei Chachamim sont assis à table. C'est pas que chacun va dire un petit vort. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit que quand les Talmidei Chachamim sont là, c'est que toute la conversation, elle est une conversation de Torah. Ça veut dire y compris les propos de table, si vous voulez, qui sont échangés à ce moment-là, sont des propos qui sont nourris, qui sont pétris de divrei Torah. C'est-à-dire que tous les sujets dont on parle sont des sujets qui sont traités selon l'enseignement de la Torah. C'est ça, d'être à la table de Tamidei Chachamim. Ce n'est pas spécifiquement raconté les livres Torah. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est en faire mon affaire des livres Torah. Un essai à Torah. Ensuite, on passe au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est Moshe Rabbeinu qui juge. Alors, ça se passe le lendemain, Mimachorat, c'est écrit. Et mais qu'est-ce que c'est le lendemain de quoi? Le lendemain, c'est le lendemain de Yom Kippour. Dans le Stone, il ramène un enseignement de Rabbi Sheber Soloveitchik qui disait que le peuple a voulu être jugé Motsei Yom Kippour parce que à Yom Kippour, on se pardonne les uns aux autres de telle sorte que que le clan d'Israël puisse être unifié, puisque si les gens ont des problèmes encore les uns avec les autres, alors il n'y a pas d'unité, de véritable unité. Donc si on pardonne, se pardonne les uns aux autres, ça permet de fabriquer de l'unité. Et lui, il dit qu'il voulait être jugé par Moshe Rabbeinu pour maintenir cet esprit de Yom Kippour et conserver l'unité acquise. C'est pour ça qu'ils voulaient être jugés. Enfin, ils sont allés poser des questions de jugement, enfin, demander le jugement de Moshe Rabbeinu sur leurs problèmes ce lendemain de Yom Kippour. Et alors, le Passouk dit, très, vous le savez bien, ce qui va venir ici, Passouk dit que Vayeshev, Moshe, l'Ishpot et Ta'am, donc Moshe Rabbeinu était assis et jugeait le peuple. Vayamod ha'am al Moshe min aboker ad ha'aref. Et le peuple était là en attendant, il était sur Moshe, en quelque sorte autour de Moshe, pour être jugé. Ils étaient là du matin au soir. Rashi dit, Vayeshev Moshe Vayamod Ha'am, Yoshev Kemelech, Mekulan Omdim. Il était assis, Moshe Rabbeinu, comme un roi. Vayi Bishurud Melech, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu avait un statut de Melech chez les Bnei Israël. C'était un Melech sans cour. Il n'avait pas une cour autour de lui. Ni tous ses attributs des rois, comme ça. Mais il était Melech. Et tout le monde était autour de lui, ils étaient tous debout autour de lui. Et Rashi dit, « Uksha davar li Yitro ». Yitro, il a trouvé que ce n'était pas bien. Parce qu'il a trouvé que « Shaya mezalzel bichodan shel Israël » Ve'orichu al kach. Yitro a pensé que d'être assis, lui, et tout le monde est debout, c'est un manque de kavod pour le clan d'Israël. Voilà ce que pense M. Yitro. Et il le lui a dit, il l'a dit à Moshe. Et alors, il lui a dit, Madoua ta yoshev levadcha Kulam Nitsavim, toi tu es seul à être assis, eux ils sont tous debout. Bon, c'est la question, mais ils étaient là, mais Boker Adarev. Alors Rashi dit, c'est impossible de dire une chose pareille. Efshar Lomar Kach, on ne peut pas dire une chose pareille, ce n'est pas vrai. Et la Kol Dayan, Shedan Dinemet la Mito. Afilou Sha'a Achat, Male Alava Katouf Kiilou, Osek Batora Kolayon. Ou Kiilou, Nase Shutaf, Akadosh Bokhu Bemase Berichit. Shenemar Bo Vayere Vayboke. Alors Rashi dit, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Moshe Rabbeinu, il devait l'ernen, il devait enseigner. Il ne pouvait pas passer son temps à juger les gens. Alors, Rashi dit, si c'est pas vrai, alors que si effectivement ils n'étaient pas là, Miboker Adarev, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rashi dit, ça veut dire que si on est dan, din, emet l'amito, le Gaon de Vilna explique qu'est-ce que c'est emet l'amito. Un dayan, normalement, il juge les bédé emet, d'après le emet. Ça veut dire d'après la Torah. Alors le Gaon dit oui, c'est vrai, emet, c'est la Torah. C'est-à-dire, c'est un juge qui connaît la Torah. Il connaît le Shulchan Aruch, il sait exactement. Connaît parfaitement Shulchan Aruch. Mais émettre la mytho, c'est la metziut, la réalité. C'est-à-dire que s'il ne connaît pas vraiment la réalité, il a beau connaître le Shulchan Aruch parfaitement, il ne pourra pas juger en vérité. Émettre la mytho, c'est qu'on connaît effectivement, très bien la situation, on sait que ce que valent les promesses, comment on formule les choses, quand est-ce qu'on est engagé, etc. Et on sait comment les gens essaient de tromper, etc. Il faut connaître tout ça pour pouvoir juger. À ce moment-là, quand on connaît tout ça, on peut se faire une véritable idée de la situation, alors on saura quelle partie du Shulchan Aruch il faut appliquer là. Quel chapitre, quel article, etc. De quoi ça relève ici? Mais si on juge de cette manière-là, alors Rashi cite deux des choses, c'est considéré comme s'il avait étudié la Torah du matin au soir, et c'est aussi considéré comme s'il était, en faisant cela, l'associé d'Akadosh Baruch Hu dans Maaseh Bereshit. Il est créateur de monde, avec Hachem, quand il juge Emet l'Amito. Donc c'est intéressant, c'est qu'on ne dit pas que s'il a jugé une heure, c'est comme s'il avait jugé nuit et jour, c'est comme s'il avait étudié la Torah nuit et jour. Le summum des activités humaines, c'est l'étude de la Torah. Et juger, émettre la mytho, c'est en quelque sorte étudier la Torah. Parce qu'il faut étudier la Torah, c'est-à-dire trouver ce que la Torah a à dire dans chaque situation, donc clarifier la situation, et à ce moment-là, dire, voilà, la Torah, elle dit ça dans cette situation-là. Si tu ne sais pas la situation, si tu te trompes sur la situation, tu vas dire la Torah, elle dit ça, oui, mais ça ne s'applique pas à la situation concrète qu'on avait devant soi. Donc voilà, mon cher Abénou. Mais ça, c'est les drachot. Mais concrètement, Yitro, lui, il l'accuse de. Il lui dit, mais tu tiendras jamais le coup et le peuple non plus. Il faut que tu délègues. Et il va proposer les arrangements que vous connaissez. Il va dire, si Hachem est d'accord avec ça, alors fais-le. Et visiblement, Hachem a été d'accord. Et on l'a fait, et il l'a fait. Et alors, Moshe, il a expliqué pourquoi les gens venaient chez lui, parce que les gens, ils voulaient absolument entendre la parole d'Hachem. Et lui, il donnait la parole d'Hachem. Les gens n'avaient pas confiance que les responsables des tribunaux intermédiaires allaient donner vraiment la parole d'Hachem. Donc c'est un côté négatif, en fait. Parce que le peuple se privait de l'accès, d'intervention directe de Moshe Rabbeinu. En réalité, les Bnei Israël auraient dû, et ça, ça n'a pas marché, ils auraient dû dire nous, que nous préférons entendre la Torah de ta bouche. À la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, les Bnei Israël aussi manifesteront une certaine indifférence à ce qui arrive à Moshe. Moshe se serait attendu à ce qu'il y ait une manif, super manif, pour forcer Hachem à laisser entrer Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. Ça, c'était peut-être pas possible, mais Moshe Rabbeinu a été affecté par cette indifférence. Et ici aussi, il semble que alors que c'est très très important d'avoir un maître et de s'attacher à ce maître, même si rationnellement il vaut peut-être mieux organiser la justice de cette manière-là à la Yitro. Alors, on peut se demander pourquoi Hachem a accepté, parce que le Mitro n'a pas dit « il faut que tu fasses ce que je te dis indépendamment de… » Non, il faut demander à Hachem. Hachem a été d'accord avec… Mais ça arrive, peut-être que Hachem lui aussi se disait « bon, si les Bnei Israël ne jugent pas nécessaire d'avoir un contact direct avec Moshe, bon, ben voilà, ils sont au niveau où ils sont. » Et on voit d'autres endroits, Hachem demande « mi iten » et les Bnei Israël auraient dû demander, auraient dû répondre « atat iten ». Hachem dit « mais si seulement, qui est-ce qui pourrait faire en sorte que le cœur qu'ils ont maintenant, c'est un moment tout à fait favorable, que ça dure ?» Hachem a dit « mi iten » qui va donner ça. Alors Chazal dit « mais les Bnei Israël, ils auraient dû dire « atat iten ». Toi, tu vas me donner ça. C'est toi qui vas le faire. C'est-à-dire demander à Hachem de le faire. Miten, qui est-ce qui peut? Toi, tu peux. Ils ne l'ont pas fait. Il y a cette espèce de... D'un côté, une forme... Ils adoraient certainement Moshe Rabbeinu. Ils l'aiment beaucoup. En tout cas... jusqu'à la révolte de Korach, etc., ou plus exactement jusqu'au Meraglim, personne n'aurait pu, dans le clan d'Israël, dire un seul mot contre Moshe Rabbeinu. Mais après, les Meraglim, c'est devenu possible. Mais ça, on en reparlera en son temps. Et donc, il y a une organisation nouvelle, d'après les conseils de Yitro. Et bien à ce moment-là, on arrive à Bachodesh Ashlishi Letzet Bnei Israël, le troisième mois, Nissan, Iyar, Sivan. Et Bayom Hazeh, on apprend Bayom Hazeh, c'est Rosh Chodesh. Bahou Midbar Sinai. Ils sont arrivés dans le désert de Sinai. Ils ont voyagé depuis Refidim, là où il y a eu la guerre contre Amalek. Et là, il y a le fameux passouk qui dit que Vayachanu bamidbar, les Bnei Israël ont campé dans le désert. Vayichan sham Israël a Negedar. Et Israël a campé face à la montagne, là-bas, face à la montagne. Donc vous avez les Bnei Israël ont campé, puis ensuite Israël a campé. À cet endroit-là, ils sont devenus un peuple. Et c'est remarquable qu'ils s'appellent le peuple. Le nom du peuple, c'est Israël. Jusque-là, le nom du peuple, ça avait, la plupart du temps, c'était marqué. Le peuple s'appelle Am Bnei Israël. Le peuple Bnei Israël. Leur nom, c'était Bnei Israël. Et maintenant, leur nom, c'est Israël. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'ils deviennent un peuple. C'est pour ça qu'on peut en parler au singulier. Vayichan, Sham. Juste avant, c'est écrit Vayichanu. Ça allait très vite. On est sorti le 15 Nissan, là maintenant au début, on est au Chodesh Sivan, et voilà, ils sont au pied de la montagne. Alors, le cheminement était un cheminement vers le devenir un peuple. Il ne l'était pas du tout en Égypte. Même pas à la sortie d'Égypte, non plus, pas non plus à Kriyat Yamsouf, et pas non plus au moment de Milchemet Amalek, ils ne deviennent que à ce moment-là. Alors, est-ce qu'ils le deviennent pour pouvoir recevoir la Torah, ou bien c'est parce qu'ils sont devenus qu'ils peuvent maintenant recevoir la Torah? Alors, Moshe Rabbeinu est monté vers Elohim et Hachem l'a appelé de la montagne. Il lui a dit « Kot omar levet Yaakov vetagid, pardon, l'Ibnei Israël. Voilà ce que tu vas dire à Bet Yaakov et voilà ce que tu vas raconter au Bnei Israël. Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu, dit Hachem, ce que j'ai fait à l'Égypte. Va'essa et très mal kanfen sharim. Et je vous ai porté comme sur des ailes de l'aigle, c'est-à-dire comme l'aigle porte ses petits au-dessus des aigles, au-dessus des ailes, pardon. Parce que lui-même, avec son corps, il va aller protéger de. Les choses ne peuvent venir que d'en bas, puisque c'est lui qui vole le plus haut. Et donc Hachem vous a porté comme sur les ailes de l'aigle, c'est-à-dire il vous a préservé. C'est comme si Hachem lui-même s'était mis en bouclier pour vous. Bon, la Madriga de Magen Avraham, bouclier d'Avraham. Va vietrem Elai. Je vous ai amené auprès de moi. Ve'ata, et maintenant, im shamoa tishmu bekoli ushmartem et briti ve'item li zgula mikol ha'amim ki li kol ha'aretz. Maintenant, si vous m'écoutez, si vous gardez mon alliance, si vous êtes pour moi comme le plus cher de tous les peuples, le plus précieux de tous les peuples pour moi, et que vous l'êtes parce que toute la terre est à moi, et vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim, un royaume de princes, Goy Kadosh, un peuple saint. Alors, Ele Advarim, Asher Tidaber El Bnei Israël, voilà ce que tu vas dire au Bnei Israël. Et Moshe est allé le dire au Bnei Israël. Et les Bnei Israël ont répondu, « Kol asher diber Hashem na'aseh. » Tout ce qu'Hashem a dit, on va le faire. Moshe Rabbeinu a rapporté ses paroles à Hashem. Alors Hashem a dit à Moshe, « Voilà, je vais venir vers toi dans la nuée, dans l'épaisseur de la nuée, et je vais te parler donc. Et pourquoi est-ce que je vais faire ça maintenant ? Je veux que le peuple entende que je te parle. De telle sorte, comme ça, ils auront aussi confiance en toi pour toujours. Et à ce moment-là, Moshe a dit les paroles que le peuple avait dites à Hachem. Hachem a dit à Moshe, va, dis-leur, sanctifiez-vous aujourd'hui et demain. Lavez vos vêtements, donc purifiez vos vêtements. Et soyez prêts, la Yom HaShlishi, pour le troisième jour. Yom HaShlishi, parce que ce troisième jour, Yared Hashem le'ene kol ha'am al Har Sinai. Hashem va descendre aux yeux de tout le peuple sur le Sinaï. Et il donne des lois concernant les mesures d'éloignement de la montagne qu'il faut prendre. Cette montagne-là, elle va momentanément être une montagne sainte, en quelque sorte, parce qu'Hachem va y parler, va parler sur cette montagne. Voilà, on va s'arrêter là. Appelez-moi, l'année prochaine, il faut travailler sur la suite. Et pas refaire de nouveaux cours sur le début d'ITRO. Marquez sur vos tablettes, il faut faire pour sur la fin de la paracha.
Merci.